Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui sont derrière leur écran à cause du circuit des cyclistes. J'espère que ceux qui sont venus pourront rentrer chez eux parce que quelqu'un me disait tout à l'heure qu'à partir de midi...
On m'a dit qu'à 2h, c'est 2h.
2h, ah bon, on vient de me dire midi. Donc j'espère que ceux qui sont là pourront rentrer chez eux de toute façon. Et puis bienvenue à tous ceux qui sont derrière leur écran. Merci de suivre l'étude de ce personnage. Honnêtement, je pensais parler devant 3 ou 4 personnes, mais je vois qu'il y en a beaucoup qui ont quand même pris des risques et qui sont venus. J'avais vraiment à cœur de continuer le personnage d'Élie et de revenir un tout petit peu sur cet épisode incroyable de la dépression d'Élie. Parce que, voilà, on va voir pourquoi, parce qu'Élie est quand même un personnage incroyable et qu'il ait pu passer par un moment comme ça, ça nous parle beaucoup de l'authenticité de la parole de Dieu. Parce que vous savez, en général, les livres religieux, dans presque toutes les religions, je pense, hein, ils peignent leur héros tout en doré, hein. Il a tout bon, il est parfait, il a tout fait bien, etc. Et évidemment, c'est pas toujours crédible, hein. Mais par contre, ce que j'aime dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est que on dit les choses comme elles sont. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Est-ce que ça ressemble pas à notre vie? Eh oui. Et c'est ça qui, pour moi, est très important au niveau de l'authenticité, la confiance qu'on peut accorder à la Bible. Parce qu'elle est vraie, elle raconte pas n'importe quoi, elle peint pas tout en doré, elle dit les choses comme elles sont. Et ça, pour moi, c'est très important. Ça prouve la vérité, l'authenticité de la parole de Dieu. La plupart des livres religieux, ils peignent leurs idoles, voilà. Vous savez comment. Donc, c'est très, très important. Alors, un petit résumé rapide. On parle d'Élie. C'était un prophète de l'Éternel. Alors attention, le mot prophète, hein, je le dis à chaque fois parce qu'il faut qu'on s'en souvienne. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. C'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir. C'est pas Nostradamus. C'est pas voilà. Le prophète à cette époque était surtout là pour rappeler au peuple de revenir vers Dieu. Si vous lisez les prophéties de la Bible, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, etc., vous allez voir toujours le message, c'est revenez à l'Éternel. Ça s'appelle la repentance. Alors, il y a des gens qui pensent que la repentance, c'est faire une liste de tous nos péchés, puis bon, elle est longue, et puis demander pardon. Ça peut en faire partie, mais c'est revenir vers Dieu, remettre Dieu en priorité dans notre vie, remettre nos choix à la volonté de Dieu. Ah, ça, c'est déjà beaucoup plus embêtant, parce que finalement, faire une liste de nos fautes et puis dire pardon Seigneur, ça va encore. Mais... chaque jour, remettre notre vie au Seigneur, chaque jour, donner priorité au Seigneur, chaque jour, se dire, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place ? Hein, c'est ce que ma mère me disait toujours quand j'étais jeune et que je posais une question, qu'est-ce que Jésus ferait à ta place ? C'est quand même plus difficile. Hein, et c'est ça, revenir à l'Éternel. La repentance, hein, c'est vraiment revenir à l'Éternel. C'est un changement de mentalité où c'est plus moi la priorité, c'est Dieu en moi, Jésus en moi. Qu'est-ce que ferait Jésus ? Donc, c'est ça le rôle du prophète. Et Élie, il a vraiment accompli ce rôle. Hein. Et là où on en est, là, donc, on est dans 1 Roi 19, chapitre 19. Élie vient de vivre le moment le plus difficile de sa vie. Alors, jusque-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait toujours vu dans l'obéissance à Dieu, dans la foi, quelles que soient les circonstances. Et puis, il en a eu des circonstances bizarres, lui, hein. Sécheresse, la sécheresse dans ces pays-là, c'est encore pire que chez nous, hein. Sécheresse, famine, des voyages extrêmement pénibles. Rappelez-vous, les voyages se faisaient à pied ou dans le meilleur des cas, à dos d'âne. C'était la voiture de l'époque. Ou à dos de chameau, mais en général, c'est plutôt les ânes chez eux. Quelquefois les chevaux, mais à cette époque, pas beaucoup. Quelles que soient les circonstances, mission dangereuse, besoin et d'une reine complètement idolâtre. On peut dire que sa confiance en Dieu, franchement, elle était totale. Vous vous souvenez de tout ce qu'on a vu du début de la vie d'Élie. Au chapitre 18, Dieu lui dit de se présenter devant le roi, qui n'était pas fort sympathique. Le roi le cherchait sans succès depuis des mois pour lui annoncer que Dieu va faire tomber la pluie sur le pays. 18, verset 15. On va lire rapidement pour se situer bien dans le texte. Élie répondit, « Éternel, le maître de l'univers dont je suis le serviteur et vivant, aujourd'hui je vais me présenter devant Akab. » Bon, parce que il fallait oser se présenter devant ce roi. Ils avaient déjà fait tuer plusieurs prophètes de l'Éternel. Mettez-vous à sa place. Si on vous envoie voir quelqu'un qui a déjà fait tuer des membres de votre famille, par exemple, c'est pas très rassurant. C'était un peu ça. Ensuite, versets 17, 18 et 19, des mêmes passages. À peine l'eut-il aperçu qu'il lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Ça, c'est le roi qui s'adresse au prophète. Élie répondit « Je ne trouble pas Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi au Mont Carmel avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel, donc la reine. » Vous avez vu, Élie ne se laisse pas culpabiliser, même par le roi. Il transmet les ordres de l'Éternel avec beaucoup d'autorité. Il peut se faire tuer. Ils ont déjà fait tuer une centaine de prophètes ou plus. Mais il est d'une fidélité, d'un courage. Moi, je ne peux pas imaginer. Et il lui demande de rassembler tous les prophètes païens au service de la reine sur le mont Carmel avec tout Israël, c'est-à-dire c'était tous les chefs de famille. Ça faisait quand même une belle foule. Au verset 21... On avance. Akab a envoyé des messagers et il a rassemblé et les gens d'Israël et les prophètes. Vous vous rappelez de ce passage? Et là aussi, regardez le courage d'Élie. Il s'approche de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux ?» Alors certaines traductions disent « Marcherez-vous d'un pied sur l'autre ?» Si c'est l'Éternel qui est Dieu, eh ben, suivez-le. C'est logique. Hein. Si c'est Baal, eh ben, suivez-le. Baal était le dieu des éléments, du tonnerre, de la pluie, etc. Le peuple ne répondit rien. Vous imaginez le courage de cet homme qui leur dit si c'est Dieu, vous le suivez, si c'est Baal, allez, suivez-le, mais au moins, prenez une décision, choisissez. Hein, vous souvenez, Josué avait déjà dit choisissez qui vous voulez servir. Et dans la vie, on n'aime pas trop faire des choix parce qu'on se dit ouh, mais si après, je regrette. Et puis. Bon, ça s'applique pas forcément à tout, mais je sais que moi, j'ai beaucoup de mal à m'acheter certaines choses parce que, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce que ça va me plaire dans 2 ans? Est-ce que, on hésite. Mais le problème, c'est qu'on hésite aussi pour les choses importantes. On hésite aussi pour est-ce que je vais suivre Dieu ou pas? Et le peuple, il avait résolu le problème à cette époque-là. Ah, mais il était malin. Un peu pour les deux. 50-50, moitié-moitié. Allez, on fait les rites de fertilité avec Baal. À l'occasion, si nécessaire, on va sacrifier un bébé, voyons. Et puis, on va quand même adorer le Dieu d'Israël. C'est quand même le Dieu d'Israël. Oh, ils avaient résolu le problème, on ne choisit pas. Mais ça ne passe pas avec Dieu. Pour Dieu, c'est choisissez aujourd'hui. Et comme disait André l'autre jour, aujourd'hui, qui vous voulez servir. Donc le peuple ne répond pas. Alors, c'est quand même un peu dur, hein. Pour Élie, c'était pas très encourageant, mais ce que je trouve incroyable, c'est qu'il perd pas sa contenance. Il dit au peuple, je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le coupent en morceaux, le placent sur le bois sans y mettre le feu. De mon côté, moi, je préparerai l'autre. Voyez, 450 d'un côté, un tout seul de l'autre. Ouh! Et il ne se décontence pas. Je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Faites appel au nom de votre Dieu. Moi, je ferai appel au nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui qui sera Dieu. Et le peuple, là, il répond quand même, gentiment, c'est bien. Donc, on est d'accord. Enfin, mettez-vous à la place. Là, je vous relis ça parce que je sais que vous connaissez le passage. Mais mettez-vous à la place d'Élie, tout seul. Il va faire son autel, il va tout préparer pour le sacrifice. Et puis les autres, ils sont 450. Bon, il fallait quand même avoir une foi en Dieu absolument dingue. C'est incroyable ce qu'il vit là. Alors évidemment, vous connaissez l'histoire. Les prophètes de Baal commencent à danser, chanter. Alors ils ont commencé très tôt le matin et jusqu'à 3 heures de l'après-midi à peu près. Hein. C'était l'heure de l'offrande, donc j'ai vérifié d'après les commentateurs, c'est 3 heures d'après-midi. Donc vous voyez, depuis tôt le matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi, ils ont dansé, chanté, frappé le sol. Et puis voyant que leur dieu ne répondait pas, Élie s'est permis une plaisanterie. Alors là, je suis quand même étonnée de la part d'Élie, qui dit « mais peut-être votre dieu il dort, faites un peu plus fort ». Enfin, un peu d'humour, il y a de l'humour dans la Bible, hein. Mais franchement, là, moi, ça me gêne un petit peu. J'ai oh là là, comment il ose faire ça. Et puis, bah, à 3 heures, il se passait toujours rien. Ils avaient fait des incisions, comme c'était la mode, enfin, les rites païens. Ils s'étaient fait des incisions pour faire couler le sang, pour vraiment faire plaisir à leur Dieu. Bah, il n'a pas répondu, il ne s'est rien passé, rien du tout. Rien, rien, rien. Et là, Élie, après, bah, vous connaissez l'histoire. Il a fait son autel. Il a rappelé au passage, il a pris 12 grosses pierres. Les enfants d'Israël ont bien compris de quoi il s'agissait, les 12 tribus. Et puis, il a mis son bois, il a mis l'animal coupé en morceaux, le taureau. Et puis, il s'est directement adressé à Dieu. Alors, on va retrouver ça un petit peu plus loin. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit... Regardez sa foi et son assurance. « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. » C'était quand même chaud là, hein. Imaginez que Dieu n'ait pas répondu. Il risquait sa vie quand même, hein. « Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Vous voyez cette notion de retour à Dieu, toujours chez les prophètes. « Que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Et le feu de l'Éternel tomba, il brûla l'holocauste, c'est-à-dire le sacrifice, le bois, les pierres, la terre. Et quand j'étais petite, je me disais « Oh là là, c'est pas facile de brûler des pierres. » Mais si vous regardez en ce moment, l'éruption volcanique en Islande, vous avez vu que les pierres fondues, ça coule comme de l'eau à certains endroits, c'est impressionnant. Donc, il brûle tout, y compris les pierres et la terre. Et puis, en plus, lui, il n'avait pas rendu les choses faciles pour Dieu. Il avait tellement confiance en Dieu qu'il avait versé 12 cruches. Alors, ce n'était pas les petites cruches qu'on met sur notre table, hein. C'était les grandes cruches en terre qu'ils avaient à l'époque, ces amphores qu'on retrouve, toutes les fouilles archéologiques en trouvent. Et 12 cruches. Donc, c'est-à-dire, l'animal était trempé, et vous avez essayé de faire griller de la viande toute mouillée. Ça m'est arrivé, c'est pas évident, hein. Ça fait des bulles, mais ça grille pas. Et donc, allez, il en avait mis sur l'animal, il y en avait sur le bois. Avez-vous essayé de faire un feu avec du bois mouillé? Bon, vous savez ce que ça donne. Et puis, les pierres, tout a brûlé. Et toute l'eau a été absorbée. Ah, quand Dieu veut quelque chose. Il va jusqu'au bout, il va jusqu'au bout. Et lui, il connaissait son Dieu suffisamment bien pour prendre tous ces risques-là. Alors, versets 36 à 40, on vient de les lire. Qu'est-ce qu'il dit en conclusion? Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre. Ah tiens, là il se bouge. Et dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ah oui, là ils ont été impressionnés quand même, hein, après ce qu'ils ont vu. Et il dit, emparez-vous des prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper. Ils s'emparèrent d'eux, les firent descendre au bord du torrent, où ils ont été égorgés. Alors, ça nous choque, 3000 ans plus tard, c'est évident que ça nous choque. Ceci étant, je l'ai déjà dit la dernière fois, vu le nombre de sacrifices de bébés qu'ils ont faits, je pense qu'il y a encore quelques années, en France, ça aurait été la peine de mort, de toute façon. Vu le nombre de bébés qui sont sacrifiés, d'enfants, hein, on a retrouvé beaucoup d'ossements d'enfants autour des temples de Baal et d'Astarté. Donc évidemment, ça nous choque, la façon dont c'est fait, mais je ne sais pas si des prêtres qui ont égorgé des bébés, qui les ont jetés dans le feu, faut se remettre dans le contexte de l'époque. Hein. Voilà. Donc, cet homme... Il voit tout son peuple qui revient vers l'Éternel. Et là, on va essayer de se mettre dans la peau d'Élie, hein, un petit peu. Ils ont tous reconnu que l'Éternel est Dieu. Ils ont été courageux, ils ont quand même tué tous les prophètes de Baal. Ça ne devait pas être joli, joli. Dieu a vraiment prouvé que Baal n'existait pas, que c'était un produit de l'imagination. Il n'avait jamais rien fait. 3 ans de sécheresse, il n'avait pas bougé, alors que c'était le dieu de la pluie. Bon, voilà. Donc... Ça y est, le peuple a compris que Dieu est Dieu. Ah, c'est génial. Alors le Élie, il invite le roi à boire et à manger. Visiblement, le roi Acab avait jeûné. Et puis, il monte au sommet du mont Carmel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai regardé la carte, hein, c'est au-dessus de la côte, il avait la vue sur la mer. Et il prie pour la pluie maintenant, parce qu'il sait que Dieu lui a dit, maintenant la pluie va revenir, la sécheresse est finie. C'est sûr que le peuple ayant reconnu que Dieu est Dieu, la sécheresse allait prendre fin, la pluie allait tomber. Et puis, là encore, mais alors la persévérance d'Élie. Moi, je ne sais pas, mais comment il a pu faire ça ? Il devait être fatigué après tout ce qu'il avait vécu. Et il prie une première fois. La Bible dit qu'il s'est recroquevillé la tête entre les genoux. Ça doit être difficile à respirer, mais enfin bon. Et il prie, et puis il envoie son serviteur. Va voir. Serviteur revient, rien à l'horizon. Et il reprit une deuxième fois. Il envoie son serviteur, pareil. Troisième, quatrième, cinquième, sixième fois. Mais quelle persévérance ! Un homme qui connaissait son Dieu, Dieu avait dit qu'il allait pleuvoir, il continue à prier pour que la pluie tombe. Ah, si on avait cette persévérance, hein ! Oh, si on avait cette persévérance. Aïe, 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 moi j'admire. Hein. Et puis la septième fois, son serviteur revient en disant, il y a un petit nuage grand comme la paume de la main. Donc vous voyez à peu près un tout petit nuage là dans le ciel. Il dit, c'est bon. Il avait tellement confiance, persévérance. Confiance en Dieu. Il connaissait tellement son Dieu. Ok. Moi, je dis toujours, c'est ma mère qui disait toujours ça, quand il y avait un début d'exaucement de prière, elle disait, ah, c'est le petit nuage d'Élie. Ah, il faut continuer à prier. C'est le petit nuage d'Élie. Et oui, il a suffi d'un petit nuage pour que ça, il soit sûr que Dieu avait répondu. Et puis, il va dire à son serviteur, monte dire à Acab, le roi, donc d'atteler son char, afin que la pluie ne puisse pas le retenir, si ce n'est pas de la foi. Alors vous savez, dans ces pays, bon, en France c'est pareil, puis en Californie aussi, là, ces derniers temps, il y a eu des années de sécheresse, et puis la pluie se met à tomber. Résultat, ça fait des inondations terribles, la terre n'arrive pas à absorber toute cette pluie, elle a été au sec pendant je ne sais pas combien de temps. Et donc, c'est sûr qu'il a suffisamment de foi pour croire que ces nuages, ce petit nuage qui est le premier, il va en entraîner d'autres, et que la pluie va tellement tomber que le char il va pas pouvoir bien rouler. Vous imaginez, il n'y avait pas de route goudronnée. Pour les jeunes, là, réfléchissez bien. C'était des pistes de sable ou de cailloux. Et un char, il n'avait pas des pneus d'alope. C'était pas évident de rouler là-dessus. Donc, avec beaucoup de pluie, c'est fini. Quoi. Ça fait des pistes, on s'embourbe, etc. Alors... Versets 45 et 46, « En quelques instants, le ciel devint noir de nuages. » En quelques instants. Vous savez, on dit souvent que Dieu est parfois lent à nous répondre. Et après, quand il répond, il va vite. Et il y a un petit proverbe là-dessus dont je ne me souviens plus, mais souvent les pasteurs disent ça. Oh là là, on prie pendant des années. Puis d'un seul coup, les choses vont très vite. Et c'est un peu ça. En quelques instants, le ciel devint noir de nuages. Ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas de pluie. Hein. Le vent souffla. Il y eut une forte pluie. Acab, le roi, donc monta sur son char et partit pour Jizréel, là où il habitait. La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Acab. On en a parlé la dernière fois. Il veut montrer son obéissance au roi. Il veut montrer que non, je ne suis pas son ennemi. Et il marche devant le char et il est heureux. Il est heureux. On se met à sa place, là, maintenant. Il se dit, ça y est, le peuple est revenu vers Dieu. Ça y est, ils savent que Dieu est leur Dieu, que ce n'est pas toutes ces idoles en bois, en pierre, en airain, en tout ce que vous voudrez. Il est heureux. Il se dit, voilà, le roi, maintenant, il a compris. Il a vu ce que Dieu a fait. Il a compris. Et il court, vous imaginez la joie quand il court devant le char du roi. C'était une coutume pour montrer sa fidélité au roi. Il court devant le char du roi. Il est heureux. Ça y est, mon ministère est arrivé à porter ses fruits. Ah. Alors la Bible nous dit que c'était un homme de la même nature que nous. Alors jusque-là, honnêtement, c'était difficile à croire. Hein. Sa persévérance, son obéissance, sa foi, sa joie, son courage, enfin, vous imaginez ? Face à des hommes hostiles, face à des pratiques occultes, qui nous font peur, nous, quand même. Hein. Face à des païens, à la lâcheté du peuple, il a tenu bon. Un peuple au cœur partagé, pauvre un petit peu de chaque côté. Il a tenu bon. Et la Bible dit, ah, mais c'est un homme de la même nature que nous. On a, je ne sais pas si vous, si vous êtes comme moi, mais on a envie de dire, oh non, Seigneur, non. Tu plaisantes. Hein. Il ne peut pas être de la même nature que nous. C'est, avec tout ce qu'il a vécu là, non. Son autorité, sa force, etc. Jusque-là, c'était difficile à croire. Parce qu'il fait preuve en plus d'une énergie extraordinaire en courant devant le char du roi sur quelques kilomètres. Le roi a pris position, c'est l'Éternel qui est Dieu, le peuple a pris position, c'est bon, ça ne peut pas être un hasard. Baal n'a rien répondu, tout le monde sait que Baal n'existe pas. C'est formidable, et puis quand même, on était 1 contre 400, hein, ou 450. Il est heureux, il croit bientôt voir un réveil spirituel. Dans sa tête, c'est clair, il va y avoir un réveil spirituel en Israël. C'est évident, hein, après ce qu'ils ont vu, moi aussi j'aurais pensé la même chose. Plus besoin de se cacher, plus de risque de se faire tuer. Il y avait quand même plus de 100 prophètes qui avaient été assassinés. C'est la repentance du peuple. Fini tous ces rites occultes, fini ces sacrifices d'enfants, fini les injustices. On revient au respect des commandements de Dieu. Ouais, il était au top. Mais, chapitre 19, il reçoit un messager qui venait de la part de la reine, pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas à toi ce que tu leur as fait au prophète. Un simple message. Et alors, on est parfois étonné, on se dit, mais quand même, juste une femme qui lui envoie un méchant message, et puis voilà, il est fichu, quoi, il déprime. Et en fait, il y a un petit truc qui a attiré mon attention. Alors, j'ai vérifié que c'est bien dans toutes les traductions. Sauf une, mais bon, c'est le « voyant cela hein. ». Si demain à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Et puis les mots suivants, c'est « voyant cela ». Qu'est-ce qu'il voit là, Élie, d'un seul coup? La menace de mort. Il ne voit plus le feu du ciel qui descend sur l'autel, il ne voit plus le feu qui a tout consumé, il ne voit plus le peuple qui dit « oui, c'est l'Éternel qui est Dieu », il ne voit plus le roi qui est enchanté parce que la pluie arrive, il ne voit plus tout ça. Voyant cela, c'est quoi le message? Un message qui menace sa vie, qui le menace de mort. Et Élie, voyant cela, verset 3 du chapitre 19, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Jusqu'à présent, il avait toujours fait confiance à Dieu pour sauver sa vie. Dans la sécheresse, dans la famine, Dieu l'avait même nourri avec des corbeaux. Enfin, non. Là, il voit cela. Et ça m'a frappé, j'avais jamais fait attention voyant cela. D'un seul coup, il ne voit plus que le message de la reine. Ça se comprend, hein. Mais là, du coup, Élie était un homme de la même nature que nous. Oh, là, on se reconnaît bien, hein. Oh oui, c'est vrai qu'il est de la même nature que nous. Là, tout à l'heure, c'était difficile à croire. Là, maintenant, ah oui. Hein? Comment on fait quand on a des problèmes? On commence à fixer le regard sur nos problèmes. Alors, ça m'a fait penser à Pierre, quand dans la tempête. Et alors, apparemment, c'est pas dans le texte biblique, donc je pense que ça doit être des chants que j'ai dû entendre. J'avais toujours dans la tête ces paroles. Seigneur, tu le vois, nous périssons. Tu le vois. Ah, quand on regarde les choses qu'on voit, le visible. Oh là là, ça tourne mal. Oh là là, c'est pas possible. Oh là là, j'aurais jamais cru que ce soit comme ça. D'un seul coup, il était au top. Il était au top de la joie. Son ministère avait réussi. Et brutalement, il est tout au fond. Tout au fond. Il se lève et il part pour sauver sa vie. Ce qui est curieux, c'est que cet Élie extraordinaire, je ne comprends pas d'ailleurs qu'il n'ait pas dit « Seigneur, sauve-moi ». Tu l'as fait dans le passé. Ah non, je me sauve pour sauver ma vie. Comment il a pu faire ça? Parce qu'il a fixé ses regards sur ce message. C'est horrible. Les choses ne se passent pas du tout comme il avait espéré. Son rêve de retour du peuple s'écroule. D'un seul coup, il se dit, c'est fini. Même le témoignage du roi n'a rien changé. Ah, Akab était trop faible pour protéger Élie. Et le peuple n'osera certainement pas bouger. Si le roi n'assume pas son rôle de leader, c'était malheureusement le cas d'Akab. Il avait des bons côtés, mais il n'assumait pas son rôle de leader. Du coup, il sait qu'il ne peut pas compter ni sur le roi ni sur le peuple, parce que le peuple, il est changeant. Donc, voyant cela, il s'enfuit vers le sud, vers le territoire de Juda. Bonne idée, parce que la reine n'avait pas de pouvoir sur ce, sur le territoire de Juda. Donc, ce n'était pas une mauvaise idée. Voyant cela, il va laisser son serviteur à Beersheba. Ah, pourquoi il fait ça? Il s'isole complètement. Est-ce que son serviteur avait peur aussi? La Bible ne le dit pas, mais en tout cas, il le laisse. Du coup, maintenant, il est seul. Il va marcher un jour entier dans le désert. Puis, il s'assit à l'ombre d'un buisson et il demande à Dieu de le reprendre. Non, mais attendez, c'est le même qu'il y a quelques minutes? Eh oui, un homme de la même nature que nous. Et qu'est-ce qu'il va dire? Oh, c'est bien quelque chose qu'on serait capable de dire. Hein. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Bah oui, Moïse, tout ça, ils ont fait des tas de choses. Josué, Samuel, ils ont fait des choses extraordinaires, mais bah oui, bah ils ont eu des problèmes, bah moi aussi. Je suis pas meilleur que mes ancêtres. J'ai pas réussi à ramener ce peuple à Dieu. Il sent bien que tant que la reine sera dans ces dispositions-là, elle avait beaucoup de pouvoir. C'était la fille d'un roi cananéen. Je suis pas meilleur que mes ancêtres. Et il s'endort. Il est dans un état d'épuisement physique, moral et spirituel. Si ça vous est jamais arrivé, ça arrive toujours au moins une fois dans la vie, et on se sent très proche d'Élie dans ces moments-là, on se sent très proche de lui, un homme de la même nature que nous. Pourtant, Dieu ne l'a pas abandonné. Parce que finalement, dans ces moments-là, on a l'impression que Dieu a abandonné. Oh, voilà, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres, et puis voilà, ben, Seigneur, reprends ma vie. Hein. Alors, c'est ce qui est curieux, c'est que la reine propose de le tuer, il se sauve pour sauver sa vie, et après, il dit à Dieu, reprends-moi. Vous voyez, c'est pas logique, mais voilà, c'est la souffrance, c'est la dépression. Pourtant, Dieu ne l'a pas abandonné. Et ça, c'est une partie, je l'ai déjà dit la dernière fois, que j'aime énormément, c'est l'attitude de Dieu envers notre prophète déprimé. Il est au fond du trou, il n'a plus de foi, il n'a plus de confiance en Dieu, il ne manifeste plus en tout cas. Il est au fond du trou, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est très, très dur de se sentir seul au fond du trou et de sentir qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'issue. Et qu'est-ce que Dieu fait? Vous imaginez Dieu, Élie, comment peux-tu te comporter comme ça? D'abord, Dieu va le laisser dormir. Il avait besoin de repos. Je suis pour. Et ensuite, Dieu ne lui fait pas de reproche. Et ça, c'est... Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden? Enfin, Adam et Ève avaient tout foutu en l'air. Tout! Qu'est-ce que Dieu leur dit?
Oui!
Non. Où es-tu, Adam? Où es-tu? Il le cherche. Il cherche à rétablir la relation. Et là, c'est un petit peu la même chose. Il ne le culpabilise pas. C'est un ange qui vient le toucher et qui lui a préparé son repas. Il lui permet de dormir, il lui donne à manger, et c'est un ange qui vient le toucher, il le réveille, et bien Élie, il mange, il boit, et il se rendort. C'est pas grave, Dieu va persévérer, il va en envoyer un autre, qui va venir, j'imagine le lendemain, et là, cet ange va lui donner encore à boire et à manger. Il lui donne pas beaucoup d'explications, il lui dit simplement de manger et de boire parce que le chemin est trop long pour toi. Ah, Élie, il a compris quand même. Fallait qu'il continue le chemin. Vers où? Alors, c'est marrant parce que la Bible ne le dit pas clairement, mais on le voit dans ce qui s'est passé après. Il va devoir traverser un désert pendant 40 jours et 40 nuits. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Les 40 jours de tentation de Jésus, les 40 ans dans le désert. 40 dans la Bible, c'est simplement un chiffre d'épreuve. C'est pas magique. Ça représentait un chiffre d'épreuve. Vous savez, les chiffres, parfois, ils ont un sens qui n'est pas le sens mot à mot. Par exemple, quand vous voyez 36 chandelles, ça ne veut pas dire que vous voyez 36 bougies. Ça veut dire que vous êtes tombé dans les pommes ou bien vous avez eu un coup sur la tête. Bon, et ben, c'est un petit peu ça. 40 jours, 40 nuits dans la Bible, c'est un temps d'épreuve, difficile où on fait face à soi-même et face à Dieu. Et on passe tous par des temps d'épreuve comme ça, parfois plusieurs fois dans la vie. C'est horrible. Et Dieu est conscient, le chemin est trop long pour toi. C'est-à-dire, sans ma présence, sans la nourriture que je te donne, tu ne pourras pas faire ce chemin. Et puis, il l'emmène il lui fait traverser un désert pour aller jusqu'au mont Horeb. Mont Horeb, c'est là où les 10 commandements ont été donnés. C'est là où l'alliance a été scellée entre le peuple et Dieu. Donc, ce n'est pas un hasard qu'il soit allé là. Ce n'est pas un hasard non plus qu'il soit allé dans une grotte et que Dieu lui ait parlé dans cette grotte, parce que C'est un lieu qui représentait quelque chose. Et ce n'est pas un hasard qu'il soit allé là. Et j'ai pensé à ce verset de Osée 2:16, qui parle d'Israël. « Je la conduirai au désert et là, je parlerai à son cœur. » Et c'est exactement ce qui va se passer. Élie, qui était au top, qui maintenant est tout au fond, il va parler à son cœur. Et il va lui parler, quelquefois indirectement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent Jésus répond à côté des questions. Vous avez remarqué dans le Nouveau Testament ? Les gens posent une question et on a l'impression que Jésus répond complètement à côté. Parce qu'en fait, il sait ce qu'il y a dans la tête des gens. Et il répond à ce qui est dans notre tête ou dans notre cœur, plus qu'à ce qu'on dit. Et c'est un peu ça. Quand on se retrouve seul avec Dieu, il répond aux vrais besoins, aux vrais problèmes. Il va être seul dans le désert pendant ces 40 jours. Le Seigneur parle à son cœur. Il se dirige vers le lieu où Moïse a rencontré Dieu. C'est-à-dire, il revient au lieu où l'alliance a été faite avec son peuple. Et là, ça j'aime bien. Moi, je trouve que Dieu est extraordinaire. Il lui pose une question, comme s'il ne savait pas. Il lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Comme s'il ne savait pas. Mais il voulait qu'il puisse exprimer son cœur. Et vous savez, parfois, il y a des gens qui veulent être très politiquement corrects dans leurs prières. Et qu'on prie d'une façon très réglementée, avec beaucoup de respect, et qu'on ne dise pas vraiment tout ce qu'on a sur le cœur. C'est dommage. Vous voyez là, ce qu'il cherche Dieu, c'est « Dis-moi ce que tu fais ici. Dis-moi comment tu te sens. Dis-moi ce qui se passe dans ton cœur. » Et ça ne le dérange pas hein, qu'on dise « J'en ai marre. C'est trop. » Il ne faut pas avoir peur. Et surtout les jeunes, pensez-y. C'est plus efficace qu'un psychologue, croyez-moi, malgré tout le respect qu'on peut avoir pour les psychologues. Mais c'est plus efficace. Parce qu'il veut qu'on sorte ce qu'il y a dans notre cœur. Notre mécontentement, notre colère, notre peur, notre découragement, tout ça, il veut l'entendre. Que fais-tu ici ? Et Élie, ben, il ne se gêne pas. Et là, on voit qu'il est de la même nature que nous. Moi, je trouve ça super sympa, la façon dont il va répondre. Je vais reprendre le texte. Voilà. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Que fais-tu ici ? Il répond. Oh, il ne perd pas une minute. J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites, c'est eux, ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels. Ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis restée moi seule. Et ils cherchent à m'enlever la vie. Ah bah ça, c'est vraiment ce qu'ils pensaient. Regarde les Israélites, ils ont fait que des bêtises. Alors c'est curieux en fait. Où il était le problème là ? C'était pas le message de la reine le problème ? Et là, c'est fini. Voyant cela, c'est tous les Israélites, tous. Ils ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes. Je suis restée, moi seule. C'est vrai que ça l'avait certainement frappé d'être tout seul en face des 450 prophètes de Baal. Mais quand même, dans la souffrance, on se sent seul et abandonné. On se sent seul et abandonné, c'est normal, Dieu le sait. Et curieusement, Dieu va lui reposer la question une deuxième fois, un petit peu après. Alors, pour ce qui est des Israélites, c'est sûr qu'ils sont très idolâtres, ils sont très nombreux, ils mélangent la foi juive au paganisme, mais on va voir après, ce n'est pas le cas de tous. Parce que comme souvent dans les récits bibliques, il y a un reste qui est fidèle et qui refuse les compromis. Il y en a. Et on a parlé longuement la dernière fois de ce qui s'est passé après, l'Éternel lui dit « Sors et tiens-toi sur la montagne, l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et ce que Élie a besoin d'apprendre là, c'est une autre face de Dieu. Il avait vu le feu du ciel descendre sur l'autel. Il avait vu Dieu lui donner un courage faramineux en face du roi, en face des prophètes, en face des prophètes de Baal, etc. Et là, il veut lui apprendre autre chose. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y a eu un murmure doux et léger. Et quand il l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix fit entendre ces paroles. Deuxième fois. « Que fais-tu ici, Élie ?» Alors là, moi, franchement, j'aurais pensé, qu'à cette deuxième question, il dira autre chose. Mais non ! Mais non, mais non, mais non, il est bien comme nous. Il répond, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, démoli tes autels, tué les prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul. » Et il cherche à m'enlever la vie. Pourtant, Dieu lui avait montré quelque chose. Il dit, « Tu sais, je ne suis pas que dans la violence, dans le feu, mais aussi dans la grâce, dans ce murmure doux et léger. » Ah, parfois on a une image d'un Dieu, un Dieu père fouettard, là, qui est prêt à vous punir, à vous retomber dessus. Dieu n'était pas dans le feu, il n'était pas dans le tremblement de terre. Il était dans le murmure doux et léger. Et j'avais prié la dernière fois que tous on puisse entendre, cette semaine, pourquoi pas, ce murmure doux et léger de Dieu. N'empêche que malgré ça, je pense qu'il a compris le message, mais il continue. Voyant cela, voilà, je dis pourquoi je suis là et pourquoi ça ne va pas. Et vous savez, ce qui est amusant avec Dieu, c'est qu'il ne lui répond pas directement, comme d'habitude. Il lui dit, vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Donc maintenant, il faut qu'il remonte. Il est allé vers le sud, maintenant il faut qu'il remonte jusqu'à Damas, capitale de la Syrie aujourd'hui. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël, roi de Syrie. Tu consacreras par onction Jéhu comme roi d'Israël et Élisée comme prophète à ta place. Qu'est-ce qu'il comprend ? Et là, visiblement, il comprend parce que d'un coup, c'est marrant, mais il retrouve de la force. Il dit rien, mais il a compris le message. Mais je ne t'ai pas abandonné. Ta mission n'est pas terminée. Allons, tu te lèves parce que tu as encore du chemin à faire. Parce que tu as une mission. Et là, c'est fou d'ailleurs. La mission qu'il lui donne, c'est une mission au niveau international, oindre le roi de Syrie. Alors, je me suis demandé un jour, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils avaient à voir avec le roi de Syrie ? Eh bien, malheureusement, c'était le jugement de Dieu sur Israël, donc les tribus du Nord. Hazaël a combattu Israël. Il a vraiment fait une guerre impitoyable parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel. Donc, c'était des éléments de jugement. Mais... voilà, il lui dit, tu consacreras par onction Hazaël, tu consacreras Jéhu. Et Jéhu, c'était quoi ? C'était le roi d'Israël qui allait supprimer, éliminer toute la maison d'Akab et Jézabel. Ce n'est pas une question de personne, c'était simplement qu'ils avaient poussé l'ensemble du peuple à délaisser l'Éternel pour adorer des idoles, sacrifier des enfants, etc. Donc le jugement était en route, mais il n'était pas encore pour tout de suite. Et David, dans les psaumes, évoque un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Et il reprend en ça le verset d'Exode où Dieu se définit comme ça à Moïse déjà. Donc presque 4000 ans avant. Lent à la colère et riche en bonté. Mais la colère de Dieu, elle bouillonnait quand même. Et il prépare le jugement de tous ces gens qui l'ont rejeté. Mais curieusement, est-ce qu'il était conscient, peut-être ? Oui, parce qu'il dit, celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. C'était un jugement, mais comme toujours. Un jugement qui ne va pas arriver tout de suite, ça va prendre des années. Dieu laisse, il est patient, il ne juge pas comme ça. Mais le verset 18, c'était important pour Élie. Au fait, Élie, je vais laisser en Israël 7000 hommes. Alors, vous savez, on comptait que les hommes, chefs de famille. Donc, comme les familles étaient autour de facilement une dizaine de personnes, hein, à l'époque, ça fait quand même beaucoup de monde, hein, 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Ça vous étonne peut-être, mais les archéologues ont retrouvé, entre autres, une statue de Jupiter qui avait la barbe toute usée et les joues toutes usées, parce que les gens avaient l'habitude d'embrasser les statues. Donc, voilà, cette confirmation de ce texte. Tous ces gens n'ont pas plié le genou devant Baal et n'ont pas embrassé ses statues. Hein, voyez. Il y avait du monde. Comment ça se fait que Élie se sentait tout seul ? Mais quand on a un problème, est-ce qu'on ne se sent pas tout seul ? Est-ce qu'on ne se sent pas isolé ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tant de jeunes se suicident ? Vous savez, André s'est abonné là, à un journal. Donc, de temps en temps, je regarde un peu ce qui se passe dans la région parisienne. Et je suis choquée par le nombre de jeunes qui se suicident. Suicident parce qu'ils n'ont plus d'espérance, parce qu'ils n'ont plus d'amis, ou tout le moins ils le croient, parce qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien. Et c'est dur quand même. Et c'est, vous voyez, c'est un peu ce que sentait Élie. Je suis restée moi seule. Et c'est ce que nos jeunes sentent aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est temps de leur donner un message d'espérance. Il est temps de témoigner, même si au début ils ont l'air un petit peu wow wow. Mais ils ont tellement besoin qu'il y ait des gens qui viennent leur dire, il y a une espérance, il y a un espoir, il y a une éternité. Parce que tu peux supprimer ta vie aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu feras dans l'éternité? Et puis leur montrer que Dieu prend soin d'eux, malgré toutes les difficultés. On a reçu cette semaine un chrétien du Canada qui avait donné son témoignage ici et qui avait expliqué qu'il c'était un rebelle, drogué, qui a été interpellé par la police plusieurs fois. Il avait donné son témoignage il y a des années, donc peut-être vous n'avez pas de souvenirs. Mais quand vous le voyez aujourd'hui, rempli de la paix du Seigneur, rempli de l'amour du Seigneur, son ministère est particulièrement de réconcilier les gens. Et il est efficace. Pourquoi ? Parce qu'il a découvert l'espérance en Jésus. Vous savez, ce n'est pas une religion, c'est une relation avec un Dieu qui nous aime et qui ne nous laisse pas tomber. Et c'est important de prier pour tous ces jeunes, parce que quand même, aller jusque-là, parce qu'ils ont l'impression que personne ne les aime, que personne ne s'occupe d'eux. Et ils ne peuvent pas croire en Dieu, on leur a toujours dit que ça n'existait pas dans notre système laïque, il ne faut pas parler de Dieu. Témoignez à vos amis les jeunes. Témoignez, parlez-leur de Jésus, même si vous en voient promener au début. Je vous donnerai le témoignage de Marilyn Mitton, qui a été méchante, elle était aide-soignante, elle est toute jeune, elle a été méchante avec l'infirmière qui dirigeait son service. Mais à force d'amour, elle a donné son cœur à Dieu. Et maintenant, elle témoigne à des jeunes. Elle a une maison remplie de jeunes en Bretagne qui viennent tout le temps la voir parce qu'elle leur explique que Dieu les aime. Donc, continuez à témoigner, même si au début c'est un peu difficile. Laissez pas les gens dans le désespoir. Dieu demande que nous, on fasse son travail. C'est ce qu'il a fait avec Élie. Il est allé auprès d'Élie. Il lui a donné du repos, il lui a donné à manger. Il ne lui a pas fait de reproches. Et il lui a dit de continuer son chemin avec la force qu'il lui donnait. Que ce soit vraiment un message pour nos jeunes aujourd'hui. Et alors, la fin du discours de Dieu à notre brave Élie, c'était Élie parti de là et il trouva Élisée en train de labourer. Alors Dieu lui avait dit, tu vas à tel endroit et tu vas nommer Élisée à ta place. Alors en fait, comme prophète à ta place, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé, parce qu'en fait, ils ont été ensemble un certain nombre d'années. Je voulais faire le compte, mais il faut compter avec les rois, la succession des rois, c'est un peu difficile. Mais visiblement, quelqu'un a dû le faire, mais je n'ai pas trouvé qui. Ils ont été ensemble un certain nombre d'années. Et Dieu lui dit, voilà, tu vas nommer Élisée comme prophète à ta place. Et ben, moi, je me serais peut-être dit, est-ce que, Seigneur, il est en train de labourer son champ, là? Il a une grosse propriété, ils sont très riches. Est-ce que vraiment... il n'a pas discuté. Il allait beaucoup mieux, là, Élie. Il voit Élisée et il s'approche de lui. Il jette son manteau sur lui. C'était un geste d'onction. Hein. Voilà. Il dit, voilà, il va travailler avec moi, il va prendre ma place. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Alors, il lui dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, je te suivrai. Élie lui répond, vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. Et j'aime bien cette phrase. Parce que vous souvenez, à Jésus, il y a quelqu'un qui avait dit, laisse-moi d'abord enterrer mes parents. Et puis bon, il est parvenu, lui. Mais là, Élisée, il a fait une fête. Et ça m'a beaucoup frappée. Je terminerai là-dessus. Il répond à l'appel de Dieu. Il dit oui. Et il fait une fête, une célébration. En fait, il quitte tout. Il quitte son travail, il quitte la maison de son père, il quitte... Enfin, vraiment, c'était... Mais pour lui, c'est une fête. Il abandonne toute sa vie passée, mais c'est une fête, une joie, un privilège. Pourtant, Élisée connaissait bien Élie. Il savait que la vie d'Élie n'était pas facile et que suivre Élie, ça allait être un peu pénible quand même. Il y aurait des menaces sur leur vie, toutes sortes de souffrances. Mais la Bible dit, il suivit Élie et fut à son service. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont laissé derrière eux une vie extrêmement confortable. Des grandes richesses, des amis, des situations sociales très enviables pour suivre Jésus. et se mettre à son service. Et on peut être reconnaissant envers tous ces gens. Je pense à William Carey en Inde, un petit cordonnier qui vivait sa vie tranquille en Angleterre, qui a tout quitté, mais qui est devenu un héros en Inde. Pourtant, il a apporté l'évangile. Et il y a quelques années, ils ont fait un timbre à son effigie. Tellement il a marqué l'Inde. 19e siècle, je crois. Et puis, pensez même en Europe à des gens comme Calvin, qui est un juriste, qui est bien installé confortablement. Le Seigneur l'a touché. Et il a mis sa vie en danger pour qu'on puisse avoir un évangile débarrassé de toutes les traditions humaines. Hudson Taylor, le Sadhu Sundar Singh, vous pourrez en parler de beaucoup. Et je vous parlerai juste de l'arrière-arrière-grand-père de Jean-Baptiste Meyer, que vous connaissez tous, qui a épousé Judith Schmidt. C'était mon pasteur quand j'étais petite. Et c'était déjà un monsieur âgé à l'époque. C'était un homme extrêmement instruit qui aurait pu faire une carrière brillante. Et il a prêché l'évangile. Et grâce à lui, c'est des centaines de gens qui sont venus à Jésus-Christ, qui ont été guéris, délivrés. Et je pense à tous ces gens et on est reconnaissant pour tous ces gens qui, comme Élisée, ont suivi Jésus. Et je voudrais simplement rappeler ce verset où il dit « Ok, vas-y, mais reviens. Pense à ce que je t'ai fait. » Et à chacun de nous, on peut dire ce petit mot. « Vas-y, tu fais ta vie, tu fais... Mais reviens. Viens, viens servir le Seigneur. » Non pas un homme, on n'est plus dans cette époque, mais Jésus. Vas-y et reviens. Et c'était une fête et c'était une joie. N'oublie pas ton appel. Fais ce que tu as à faire dans la vie, mais reviens. Vers qui ? Vers Jésus. Et suis-le, sers-le. Et la Bible dit, il a suivi Élisée, il est revenu. Imaginez ce qui serait arrivé si Élisée était resté, s'il n'était pas revenu. Oh là là ! Tout ce qui aurait été perdu. On va regarder certainement, peut-être l'année prochaine, la vie d'Élisée. Vous verrez, tout ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Ça aurait été dommage. Mais il a fait une fête et il est revenu vers Élisée. Il l'a servi vers Élie. Et ça a été un ministère encore plus fort que celui d'Élie. Donc, que voilà, pensez à ça. Vas-y et reviens. Et si le Seigneur vous appelle à le servir dans votre travail ou hors de votre travail, peu importe, revenez, revenez vers lui.